RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à tous, voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel L'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Et voilà le programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'armée nationale indonésienne doit maintenir la stabilité et la sécurité. Hidayat Nur Wahid a apprécié l'ambassadeur du Soudan de l'Indonésie. Denis Syamsuddin a des besoins fondamentaux pour prévenir les conflits à Dhaka. Flores est prête à développer l'énergie géothermique. Et enfin, la première exposition d'Indonésie sera tenue à Jeddah. Voici le journal complet. Le ministre de la Coordination chargé de la politique, de la loi et de la sécurité, Wiranto, a déclaré que les soldats de l'armée indonésienne, ou TNI, devaient maintenir la stabilité et de la sécurité de l'État tout au long de l'année politique 2019. Le ministre Wiranto a déclaré lors d'une réunion au commandant de division militaire d'Anrem, du commandement du district militaire Kodim, au centre d'armement d'infanterie de l'armée de terre indonésienne, Pusenif à Bandung mardi, que le rôle de TNI et de la police indonésienne ou Polri est essentiel pour assurer la réalisation de divers programmes nationaux importants. La stabilité de la sécurité nationale a l'impact sur le bon déroulement des activités politiques en 2019. Il a affirmé d'avoir cartographié les zones sujettes aux conflits électoraux. Le niveau de vulnérabilité varie dans tous les domaines identifiés. La cartographie est sujette au conflit et ses efforts de résolution ont été appliqués aux élections régionales simultanées de 2018. Le résultat, a-t-il révélé, était qu'il n'y avait pas de troubles politiques importants dans une région. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple MPR de la République d'Indonésie, Hidayat Nur Wahid, a accepté chaleureusement l'appréciation de l'ambassadeur du Soudan sur les progrès du système démocratique indonésien. C'est ce qu'a affirmé le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, Hidayat Nur Wahid, après avoir rencontré et discuté avec l'ambassadeur du Soudan en Indonésie, El Siddiq Abdul Aziz Abdallah, accompagné de son adjoint Osama Mohamed Yassin Yagub dans la salle de travail du vice-président de MPR Hidayat Nur Wahid au complexe de MPR, DPR et DPD Senayan, Jakarta, mardi. À cette occasion, l'ambassadeur El Siddiq a déclaré que le voyage de la démocratie en Indonésie était très inspirant et il a espéré que le gouvernement et les diverses parties gouvernant le système démocratique au Soudan, y compris le Parlement soudanais, apprendrait beaucoup de ce pays. El Siddiq a également souligné l'importance d'appliquer les valeurs démocratiques dans la formation, le développement et le renforcement des relations diplomatiques entre les pays. Enfin, l'ambassadeur exprimait l'espoir que le Soudan tirerait également des enseignements de l'Indonésie dans le domaine de l'économie et de l'investissement et qu'ils pourraient également apprendre les uns des autres et tirer parti des intérêts de chaque pays. Le président de la Conférence asiatique des religions pour la paix, ACRP, Denis Shamsuddin, a déclaré que le dialogue entre religieux et intra-religieux était comme besoin humain fondamental maintenant lorsqu'il était le conférencier principal dans le séminaire du dialogue mondial de la paix interconfessionnel et intra-religieux à Dhaka au Bangladesh mardi. Dans un communiqué de presse publié mercredi, la vie humaine affiche aujourd'hui un primordialisme excessif et un égocentrisme qui perturbe souvent les relations entre groupes, les groupes religieux et ethniques. La propagation des expressions de haine, de présomption et de stéréotypes dans la société, notamment par le biais des médias sociaux, selon lui, a aggravé la situation. Lors du séminaire auquel a assisté environ 200 participants se composent des ulémas, des experts, des politiciens, des diplomates et d'autres éléments de divers pays, y compris le Bangladesh, le Japon, l'Australie, l'Inde, les Philippines et le Myanmar. M. Din a déclaré que le dialogue interconfessionnel et la civilisation continuerait d'être nécessité. Il a également rappelé la nécessité de paradigmes et de nouvelles approches en matière de dialogue et a proposé la mise en place d'un dialogue basé sur la sincérité, l'ouverture et la franchise pour résoudre les problèmes. La Société de développement de la nouvelle énergie renouvelable ou Institut humaniste pour la coopération avec les pays en développement, HIVOS, va développer le potentiel géothermique à Flores dans la province de Nusa Tenggara Est en 2019. Le directeur de HIVOS d'Asie du Sud-Est, Biranshi Upadhyaya, à Kupang mercredi, a expliqué qu'il aidait à développer de nouvelles énergies renouvelables à Nusa Tenggara Est afin de soutenir 100% des énergies renouvelables en 2025. Il a fait des recherches sur le potentiel de l'énergie géothermique dans l'île de Flores. Cette activité est soutenue par le gouvernement central qui a désigné Flores en tant qu'île géothermique. HIVOS est une institution de développement international qui cherche de nouvelles solutions aux problèmes mondiaux. Les activités de l'agence consistent à développer une énergie renouvelable durable à 100%. En Indonésie, HIVOS coopère actuellement avec le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales et l'Agence de planification du développement national. L'exposition intitulée Made in Indonesia Expo 2018 s'est tenue pour la première fois à Jeddah en Arabie Saoudite pour présenter des produits indonésiens de qualité supérieure en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient. Cela a été dit par le président de l'organisateur de l'exposition Sukur Saka à Jeddah mardi. L'exposition qui s'est tenue au Jeddah Center for Forum and Event Jeddah en Arabie Saoudite présentera 75 stands de produits et services indonésiens de différentes entreprises. Selon Sukur, 70% des produits exposés sont des produits alimentaires, considérant que les produits alimentaires indonésiens ont de grandes opportunités sur le marché saoudien. Sukur espère que l'exposition qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2018 produira $1 milliard. Cette exposition est organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie ou Kadin d'Indonésie et Jeddah, le Consulat général de la République d'Indonésie et le ministère du commerce. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Secrétaire, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Améliorer la qualité de l'enseignement supérieur pour réaliser l'Indonésie 4.0 ». Un laboratoire de technologie de simulation sophistiquée équipé de réalité augmentée et de réalité virtuelle de la Faculté d'ingénierie de l'Université Gadjah Mada UGM de Yogyakarta est inauguré mercredi. Ce laboratoire peut se connecter via la technologie danoise à trois laboratoires, à trois grandes universités indonésiennes. Auparavant, l'Université d'Indonésie, UI, et l'Institut de la technologie de Bandung, ITB, ont été présents. La réalité augmentée est une technologie combinant des objets virtuels bidimensionnels et ou tridimensionnels dans un environnement tridimensionnel réel et projetant des objets virtuels en temps réel. Tandis que la réalité virtuelle est une technologie qui permet aux utilisateurs d'interagir avec des environnements simulés par des ordinateurs existants dans le cyberespace, si bien que les utilisateurs ont l'impression de se trouver dans cet environnement. L'inauguration de ce laboratoire sophistiqué est bien sûr indissociable des efforts de l'Indonésie pour faire face à l'ère de la technologie 4.0. À travers de la laboratoire, les trois universités telles que l'Université d'Indonésie, l'Université Gadjah Mada et l'Institut de la technologie de Bandung peuvent collaborer plus étroitement au développement des connaissances des futurs ingénieurs indonésiens, notamment dans le domaine de la technologie industrielle 4.0. Le terme industriel 4.0 est devenu de plus en plus familier à la population indonésienne ces derniers temps. De plus, le président Joko Widodo a inauguré Making 4.0 en avril en tant que feuille de route de l'industrie 4.0 pour augmenter la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière nationale afin qu'elle puisse concurrencer à l'échelle mondiale. De toute évidence, la révolution industrielle 4.0 est étroitement liée à l'amélioration des ressources humaines. Face à la révolution industrielle 4.0, le secteur de l'enseignement supérieur joue un rôle important en soutenant l'économie du pays et en renforçant sa compétitivité. Les universités devraient également continuer à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur afin de pouvoir produire des diplômés de qualité. L'enseignement supérieur est une institution formelle qui devrait être en mesure de donner naissance à une main-d'œuvre compétente, prête à faire face à l'industrie du travail qui se développe de plus en plus en ligne avec les progrès technologiques. L'expertise professionnelle, l'adaptabilité et l'état d'esprit dynamique sont des défis pour les ressources humaines qui doivent être obtenus lors de la poursuite des études dans une université. Serviteur, c'est le commentaire pour ce soir.
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie de Radio République Indonésia de Jakarta. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de présenter l'histoire d'aujourd'hui, le 29 novembre.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Nous commençons par le 29 novembre 1947. L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé le plan de la division palestinienne visant à mettre fin au conflit en Palestine par la résolution numéro 181. Le plan a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies avec 33 accords, 13 refus et des avis neutres. Le plan divise la Palestine en territoires pour Juifs et Arabes, dont les vastes territoires de Jérusalem comprenant Bethléem et sous surveillance internationale. Les Juifs ont obtenu la zone côtière autour de Tel Aviv, la zone autour de la mer de Galilée et la zone située dans le désert du Negev. Tandis que les Arabes ont conquis le reste de Palestine, y compris une petite enclave de Jaffa au sud de Tel Aviv. Les Juifs ont obtenu environ 55% de la superficie totale du territoire contre 45% pour les Arabes. Ensuite, nous passons à l'accident du vol des C-8 de Trans-Canada Airlines le 29 novembre 1963. L'avion qui venait de décoller de Montréal à Toronto est tombé le 29 novembre 1963 et tué 118 personnes, dont 7 membres d'équipage. L'événement a eu lieu à 6h35 heure locale, à environ 20 milles de l'aéroport international de Montréal. Certaines parties des débris de l'avion est dispersée dans un rayon d'un kilomètre de la route à péage. Prétendument, l'avion était toujours en train de brûler pendant 2 heures après son crash. Nous terminons l'édition de l'histoire d'aujourd'hui avec le 29 novembre 1971, le Corps des employés de la République d'Indonésie. Le Corps des employés de la République d'Indonésie, ou abrégé en Korpri, est une organisation en Indonésie et composée de fonctionnaires, des employés d'entreprises d'État, d'entreprises régionales ainsi que d'équipements au gouvernement des villages. Korpri, qui a été créé le 29 novembre 1971 en vertu du décret présidentiel numéro 82 de 1971, est un forum rassemblant tous les employés de la République d'Indonésie. La date de la fondation de Korpri est célébrée comme le jour de Korpri. Chers auditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui, le 29 novembre.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Le ministère de l'Environnement et des Forêts demande aux 482 entreprises de récupérer de la tourbe. Le ministère de l'Environnement et des Forêts, ou KLHK, a de nouveau pour objectif de restauration des écosystèmes de tourbe d'une superficie supplémentaire de plus d'un million d'hectares par l'intermédiaire de 147 entreprises de plantation. Cela a été transmis par le directeur général de la lutte contre la pollution et les dommages environnementaux, M.R. Karlian Shah, à Jakarta lundi. Selon Karliansa, à ce jour, le ministère de l'Environnement et des Forêts a réussi à restaurer les écosystèmes de tourbe sous forme de récupération des fonctions hydrologiques et de la restauration de végétation de plus de 2,5 millions d'hectares provenant de 167 entreprises de permis d'exploitation de produits forestiers, la forêt de plantation industrielle et de plantation. Selon Karliansa, le coaching technique est une seconde étape de récupération pour 147 entreprises de plantation pour faire l'amélioration conjointement la gestion de l'écosystème de la tourbe. D'après le décret du ministère de l'Environnement et des Forêts lié à l'établissement d'une carte de fonction nationale de l'écosystème de tourbe, l'Indonésie dispose de 865 unités hydrologiques de tourbe. Il couvre une superficie d'environ 24,7 millions d'hectares, comprenant 12,4 millions d'hectares dans la fonction protégée et 2,3 millions d'hectares dans la fonction de culture. L'unité hydrologique de Tour, y compris la tourbière, est répartie sur l'île de Sumatra, Kalimantan, Sulawesi et la Papouasie. Karliansa a déclaré que le nombre de permis sur la plantation et la forêt de plantation industrielle qui sont situés dans l'unité hydrologique de Tour atteint environ 600 permis publiés. Ce montant obtiendra progressivement un mandat de récupération complète. En 2017, le ministère de l'Environnement et des Forêts, par l'intermédiaire de la Direction générale, a émis un mandat de récupération de première phase aux 225 sociétés de plantation et 100 sociétés de la forêt de plantation industrielle. Le mandat de récupération a été appliqué par 167 entreprises et la forêt de plantation industrielle. Sur la base des données sur les mesures de niveau des eaux souterraines qui ont été régulièrement rapportées par les entreprises, à la fois dans la société de la forêt de plantation industrielle ou dans la société de plantation, en général montrent des résultats assez satisfaisants, bien que diverses améliorations aient été faites pour atteindre un niveau de souterrain de 0,4 m, conformément à la réglementation gouvernementale concernant la protection et la gestion des écosystèmes de tourbe. Et maintenant, au niveau 2 de 0,4 m, la tourbe restera humide, ce qui en fera une prévention initiale du risque d'incendie de forêt et de terre. On a besoin de l'engagement élevé et des efforts conjoints afin que la gestion des écosystèmes de tourbe puisse être effectuée en permanence afin de fournir des avantages économiques et aussi maintenir l'environnement durable. Chers amis, c'était Monirnezi de la Voix de l'Irnezi à Jakarta.
Le ministre de la Coordination chargé de la politique, de la loi et de la sécurité, Wiranto, a déclaré que les soldats de l'armée indonésienne, ou TNI, devaient maintenir la stabilité de la sécurité de l'État tout au long de l'année politique 2019. Le ministre Wiranto a déclaré lors d'une réunion au commandant de division militaire d'Anrem, du commandement de district militaire Kodim, au centre d'armement d'infanterie de l'armée de terre indonésienne, Pusenif à Bandung mardi, que le rôle de TNI et de la police indonésienne ou Polri est essentiel pour assurer la réalisation de divers programmes nationaux importants. La stabilité de la sécurité nationale a l'impact sur le bon déroulement des activités politiques en 2019. Il a affirmé d'avoir cartographié les zones sujettes aux conflits électoraux. Le niveau de vulnérabilité varie dans tous les domaines identifiés. La cartographie est sujette au conflit et ses efforts de résolution ont été appliqués aux élections régionales simultanées de 2018. Le résultat, a-t-il révélé, était qu'il n'y avait pas de troubles politiques importants dans une région. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple MPR de la République d'Indonésie, Hidayat Nur Wahid, a accepté chaleureusement l'appréciation de l'ambassadeur du Soudan sur des progrès du système démocratique indonésien. C'est ce qu'a affirmé le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, Hidayat Nur Wahid, après avoir rencontré et discuté avec l'ambassadeur du Soudan en Indonésie, El Siddiq Abdul Aziz Abdallah, accompagné de son adjoint Osama Mohamed Yassin Yagoub dans la salle de travail du vice-président de MPR Hidayat Nur Wahid au complexe de MPR, DPR et DPD Senayan, Jakarta, mardi. À cette occasion, l'ambassadeur El Siddiq a déclaré que le voyage de la démocratie en Indonésie était très inspirant et il a espéré que le gouvernement et les diverses parties gouvernant le système démocratique au Soudan, y compris le Parlement soudanais, apprendrait beaucoup de ce pays. El Siddiq a également souligné l'importance d'appliquer les valeurs démocratiques dans la formation, le développement et le renforcement des relations diplomatiques entre les pays. Enfin, l'ambassadeur exprimait l'espoir que le Soudan tirerait également des enseignements de l'Indonésie dans les domaines de l'économie et de l'investissement, et qu'il pourrait également apprendre les uns des autres et tirer parti des intérêts de chaque pays. Le président de la Conférence asiatique des religions pour la paix, ACRP, Dine Shamsuddin, a déclaré que le dialogue entre religieux et intra-religieux était comme besoin humain fondamental maintenant lorsqu'il était le conférencier principal dans le séminaire du dialogue mondial de la paix interconfessionnel et intra-religieux à Dhaka au Bangladesh mardi. Dans un communiqué de presse publié mercredi, la vie humaine affiche aujourd'hui un primordialisme excessif et un égocentrisme qui perturbe souvent les relations entre groupes, les groupes religieux et ethniques. La propagation des expressions de haine, de présomption et de stéréotypes dans la société, notamment par le biais des médias sociaux, selon lui, a aggravé la situation. lors du séminaire auquel a assisté environ 200 participants se composent des ulémas, des experts, des politiciens, des diplomates et d'autres éléments de divers pays, y compris le Bangladesh, le Japon, l'Australie, l'Inde, les Philippines et le Myanmar. M. Din a déclaré que le dialogue interconfessionnel et la civilisation continueraient d'être nécessité. Il a également rappelé la nécessité de paradigmes et de nouvelles approches en matière de dialogue et a proposé la mise en place d'un dialogue basé sur la sincérité, l'ouverture et la franchise pour résoudre les problèmes. La Société de développement de la nouvelle énergie renouvelable ou Institut humaniste pour la coopération avec les pays en développement, HIVOS, va développer le potentiel géothermique à Flores dans la province de Nusa Tenggara Est en 2019. Le directeur de HIVOS d'Asie du Sud-Est, Biranshi Upadhyaya, à Kupang mercredi, a expliqué qu'il aidait à développer de nouvelles énergies renouvelables à Nusa Tenggara Est afin de soutenir 100% des énergies renouvelables en 2025. Il a fait des recherches sur le potentiel de l'énergie géothermique dans l'île de Flores. Cette activité est soutenue par le gouvernement central qui a désigné Flores en tant qu'île géothermique. HIVOS est une institution de développement international qui cherche de nouvelles solutions aux problèmes mondiaux. Les activités de l'agence consistent à développer une énergie renouvelable durable à 100%. En Indonésie, HIVOS coopère actuellement avec le ministère de l'énergie et des ressources minérales et l'agence de planification du développement national. L'exposition intitulée Made in Indonesia Expo 2018 s'est tenue pour la première fois à Jeddah en Arabie Saoudite pour présenter des produits indonésiens de qualité supérieure en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient. Cela a été dit par le président de l'organisateur de l'exposition Sukur Saka à Jeddah mardi. L'exposition qui s'est tenue au Jeddah Center for Forum and Event Jeddah en Arabie Saoudite présentera 75 stands de produits et services indonésiens de différentes entreprises. Selon Sukur, 70% des produits exposés sont des produits alimentaires, considérant que les produits alimentaires indonésiens ont de grandes opportunités sur le marché saoudien. Sukur espère que l'exposition qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2018 produira un milliard de dollars américains. Cette exposition a été organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie ou Kadin d'Indonésie et Jeddah, le consulat général de la République d'Indonésie et le ministère du commerce. Serdita, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant le rituel de Poncho Kentang. Donc restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie à Jakarta. Le village de Sumbar Brantas dans le sous-district Bumiaji dans la ville de Batu, Malang, Java Est, est considéré comme le meilleur producteur de pommes de terre de l'Est de Java. Même sa production de pommes de terre est la deuxième meilleure en Indonésie. La pomme de terre du village Sumber Brantas est connue sous le nom de pomme de terre kaki langit parce que ce champ de pommes de terre se trouve au pied des monts Arjuna et Welirang. Les pommes de terre qu'elles produisent ont également une taille assez grande et un goût délicieux. entant que meilleure violence producteur de pommes de terre, le village de Sumber-Brantas ne vit pas très loin de la plantation de pommes de terre. Il a même des rituels traditionnels avant la plantation des pommes de terre. Le rituel est connu sous le nom de Poncho Kentang. Poncho Kentang est un terme japonais qui signifie planter. Ainsi, Poncho Kentang est un rituel réalisé peu de temps avant la plantation de pommes de terre. Le rituel tenu au milieu de champs a généralement pour but de commencer la saison de croissance de la pomme de terre. Le rituel planter la pomme de terre est tenu pour dire une prière pour que les plants de pommes de terre soient à l'abri de toutes les maladies des plantes. D'habitude, ce rituel a lieu dans les champs où les pommes de terre seront plantées. Dans sa mise en œuvre, les agriculteurs doivent apporter un certain nombre de types de nourriture avec inkong wongkul ou poulet de bilas entier cuit au four. Au fil du temps, certains agriculteurs ont effectué le rituel chez eux. Mais d'autres conservent encore d'anciennes coutumes qui pratiquent encore le rituel dans les champs. Avant de commencer le rituel Poncho Kentang, les anciens du village Sumber-Brantas ont chanté des prières en japonais. Après avoir récité une prière ensemble, le processus de planter de pommes de terre a commencé. Les aînés et les villageois ont mis 16 graines de pommes de terre dans le sol. Le montant de 16 s'avère d'avoir été déterminé à partir du calendrier japonais, où le jour de la plantation des pommes de terre tombe le samedi pon. Dans ce rituel, la communauté doit prêter attention au calcul du calendrier japonais. Après avoir planté ces semences de pommes de terre, les agriculteurs sont libres de planter leurs champs à ras-bord. Le rituel de Poncho Kentang était récemment tenu par la communauté du village Sumber-Brantas le 24 novembre. Ce rituel a débuté le festival Kaki Langit dans la ville de Batu. Ce festival est un effort pour préserver la culture de la plantation de pommes de terre, tout en profitant du moment pour planter des pommes de terre afin de créer une amitié tout en buvant du café et en cuisant des pommes de terre. Le gouvernement local développera le rituel traditionnel Poncho Kentang en une attraction touristique, afin que les touristes se rendent dans la ville de Batu puissent être les témoins directs de l'état des champs de pommes de terre et du rituel qui l'accompagne. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et cette fois nous allons présenter la journée de Korpri. Le Corps des employés de la République d'Indonésie, ou Korpri, est un forum rassemblant tous les employés de la République d'Indonésie. Fondé le 29 novembre 1971, sur la base du décret présidentiel numéro 82 l'année 1971, corpris s'efforce toujours de renforcer sa fonction de l'adhésif et l'unificatrice de la nation en maintenant la neutralité et ne s'engage que par bandit clairement aux intérêts des nations et de l'État. La célébration du 47e anniversaire de Corpris cette année a pris la philosophie du bambou dont les racines sont devenues adhésives au sol. Le bambou fertile en Indonésie pousse en masse, est un symbole de solidité et de solidarité. L'anniversaire de Corpris cette année avait pour thème Corpris, servir, travailler et unifier la nation. Le 29 novembre 2018, Istora Senayan est le point culminant de l'événement anniversaire de Corpris. Il commence par une cérémonie de drapeaux et se poursuivit par un événement d'appréciation de l'art auquel a assisté le président indonésien Joko Widodo. La série d'activités principales de l'anniversaire de Corpris comprend 4 activités sur l'action et 7 icônes, à savoir Ola Ratio, Ola Rasa, Ola Raga, Ola Ruh, Ola Ratio, y compris Detoxio, Rendez-vous et Attribution. Tandis que Ola Rasa comprend l'expo, le bazar et divers festivals. Dans Ola Raga, soit le sport, il existe un vélo familial et un fauteuil roulant 10 km, ainsi que des jeux traditionnels Winway. Ensuite, pour Olaru, comprend le MTK, le don de sang et le pèlerinage au cimetière des héros. L'icône d'anniversaire de Corpris comprend cette activité, à savoir la cérémonie du drapeau, l'appréciation de l'art, l'enchantement de Corpris et le marché populaire ou Expo Corpris, le concours Angklung et le MTK. L'Expo de service public de Corpris s'est tenue à l'occasion de la génération millénaire, l'activité qui est également soutenue par le ministère du Tourisme et centrée sur la Plaza S Senayan, Jakarta, du 24 au 29 novembre 2018. Le président du comité du 47e anniversaire de Corpris, Ukus Kuswara, a déclaré que la génération millénaire était associée au renforcement du caractère national. Ils sont impliqués parce qu'ils sont considérés comme plus alphabétisés sur les développements technologiques afin de pouvoir contribuer à la transmission appropriée d'informations via les médias sociaux. Lors de cet événement, une série d'activités pour les jeunes a été préparée. L'un d'entre eux est un concours de photographie sur le thème de l'appareil civil d'État, ou ASN, qui travaille pour servir et unir la nation. Le ministère de la Communication et de l'Information organise également un concours de photos et vidéos anti-canular. Et enfin, il existe un vote de fonctionnaires inspiré et flocs de fonctionnaires, inspiré du ministère de l'utilisation de l'appareil d'État et de la réforme bureaucratique. Dans le marché public, des services de santé gratuits sont mis en place. Il y a aussi un stand de services de passeport, des services de carte de résident, des services de permis de conduire et les autres. Des bazars culinaires ont également été présentés lors de cet événement, notamment les culinaires des fruits de mer du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, avec une scène de divertissement et des spots photos instagrammables. Chers amis, c'était L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici le magazine musical qui présente les musiques pop et traditionnelles de l'Indonésie. Pour l'édition de ce soir, nous vous présélectionnons les chansons nostalgiques chantées par Meriam Bellina. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée Symphonie Rindu. Bonne écoute. Meriam Bellina est une artiste multitalent dans le monde du divertissement en Indonésie. Elle est connue comme une actrice. En plus d'être une actrice, elle est aussi une chanteuse et une star de l'annonce. En tant que chanteuse qui avait beaucoup d'albums qu'elle a sortis, son premier album intitulé Symphonie Rindu a été publié en 1983. La chanson principale de cet album est Symphonie Rindu. La chanson a été créée et arrangée par Panca Effendi, un chanteur et compositeur indonésien. Cette chanson parle de symphonie pitoyablement qui ajoute de plus en plus à la douleur de quelqu'un parce qu'elle a été laissée par son amant. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante de Meriam Belina, intitulée Pour un homme. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était la chanson de Myriam Belina intitulée Pour Ang Nong, qui est dans l'album avec le même titre, Pour Ang Nong, sorti en 1984. Cette chanson est créée par Panche Pondaa. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici donc les dernières chansons de Myriam Belina intitulées Kerinduan et Begitu Indah. Bonne écoute, à demain.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Begitu sedih untuk
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.